à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos.
Les textes ici rassemblés sont tirés de lambeaux, de moissons, de te rejoindre, et ils sont lus par l'auteur. La très simple histoire d'une jeune paysanne sensible, intelligente, souffrant de solitude, au sein d'une famille soumise à la rugueuse autorité du père. Un amour malheureux pour un jeune homme tuberculeux, très tôt foudroyé par une hémoptysie. Le mariage, la pauvreté, la solitude due au fait que l'emploi du mari l'oblige à être toujours parti. Les longs hivers de froid et de neige, 4 maternités rapprochées, la dépression qui s'aggrave. Puis après une lente agonie, la mort, celle qu'avaient programmée les agents de la peste brune régnant sur l'Europe. Avec mes mots, tirer ma morte de sa tombe, la faire vivre de nouveau, lui murmurer que l'existence qu'elle a eue m'inspire une infinie, une déchirante compassion. Tu n'étais jamais arrivé jusque-là, et tu découvres cet endroit. Il a quelque chose de secret, de sauvage, et tu te sens vaguement inquiète. Tu laisses ton regard errer, monter le long des hauts fûts qui se dressent au-dessus de toi, et tu prends plaisir à te laisser pénétrer par ce qui t'entoure. En cette période de l'année, les arbres ont mis leurs feuilles. Elles luisent, ont la fraîcheur de ce qui vient de naître, et tu perçois cette prodigieuse vitalité de la nature, t'émerveilles de ce qu'à chaque retour du printemps, la sève s'éveille à nouveau en chaque plante, en chaque arbre. D'ailleurs, toi aussi, tu sens dans ton jeune corps un afflux de forces nouvelles. Et tu songes à celui qui bientôt te prendra dans ses bras, te fera découvrir l'amour, basculer dans un autre monde. Tu ne l'as pas entendu arriver. Prise de frayeur, tu te dresses. À l'évidence, ce n'est pas un paysan. Il poursuit son chemin, te saluant d'un mouvement de tête, non moins gêné que toi. Tu te rassieds, il se retourne, croise ton regard, a un sourire embarrassé, puis il vient te demander où mène ce chemin. Après un instant, il est assis près de toi, mais a du mal à engager la conversation, et ses paroles sont entrecoupées de longs silences. Il est vrai que tu ne l'aides guère et te contentes d'écouter. Tu n'oses le regarder, mais tu as remarqué sa pâleur et tu notes que tu n'as jamais vu des mains d'homme aussi fines, aussi blanches. À l'approche des 5 heures, surpris que le temps ait si vite passé, il t'a quitté précipitamment. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de lui demander de le revoir et tu es furieuse contre toi. Tout en marchant, tu te répètes ce qu'il t'a appris. Il habite à Paris, est étudiant, a passé la semaine dernière les épreuves écrites d'un difficile concours. Il est venu en vacances chez sa tante à Hauteville, où tout en se reposant, il préparera les épreuves orales. Pendant les jours qui suivent, tu ne cesses de penser à lui, ne peut te défaire d'une lourde tristesse. Tu cherches en vain à imaginer le moyen qui te permettrait de le retrouver. Mais l'émotion qui te saisit au rappel de cette rencontre, tu t'emploies à l'étouffer, consciente qu'un tel jeune homme se refusera à fréquenter une fille aussi quelconque que toi. Lui, un étudiant qui plus est parisien, promis un brillant avenir, et toi, une paysanne ignare, tout juste bonne à soigner des cochons, ne connaissant rien en dehors de son village, et affublé d'un père que jamais tu n'oserais lui présenter. Ce serait folie d'imaginer que ne serait-ce qu'une amitié pourrait naître entre vous. Le dimanche suivant, tu retournes au fond de la combe, là où un heureux destin t'a fait le rencontrer. Tu n'as pas un regard pour le boulot dans lequel tu avais cru pouvoir te reconnaître et dont tu avais caressé le tronc. Tendue, anxieuse, tu scrutes avidement cette pénombre où tu brûles de le voir apparaître. Enfin il est là, souriant, apparemment heureux de te revoir. Toi tu es si bouleversé que tu ne peux articuler un mot et tu lui tends une main molle. Il te raconte sa semaine, sa découverte de Hauteville, la vie qu'il mène chez sa tante, et toi, tu t'enhardis à lui poser quelques questions anodines, soucieuse de ne pas lui paraître indiscrète. Quand vient le moment de vous quitter, c'est lui qui te propose de vous revoir. Tu voulais garder secrète cette rencontre, mais comment la plus grande de tes sœurs aurait-elle pu ne pas voir que tu es transformée ? Tu chantes, tu ris, tu plaisantes, tu travailles avec entrain, et elle a très vite deviné ce qui t'arrivait. Ainsi es-tu amoureuse, et elle n'a eu de cesse d'obtenir que tu lui racontes tout par le menu. Heureuse d'avoir reçu tes confidences, elle est devenue ta complice, et elle fait en sorte que chaque dimanche après-midi, tu sois sûre de pouvoir t'enfuir. Mais malheur à toi si le père découvrait quelque chose. Dès que tu t'engages sur le chemin, tu te retiens de ne pas courir. Quant à lui, au lieu de laisser son vélo à l'embranchement, il descend à toute allure, et lorsque tu arrives, il est déjà là, à t'attendre. Cette joie folle qui déferle en toi à l'instant où tu vois son visage s'éclairer. Vous vous installez sur le tronc, et sagement, vous bavardez, ou plutôt, il parle et tu l'écoutes. Tu es émerveillé par tout ce qu'il sait, mais il n'en dit jamais assez, et tu le presses de questions. Tu aimes l'entendre évoquer sa famille, ses lectures, ses amis, ses études, ses professeurs, cette merveilleuse ville qu'est Paris. Les instants les plus beaux sont ceux où il récite un poème. Mais justement, il ne récite pas. Les mots lui viennent lentement, mais pas trop, et tu as l'impression qu'il les cherche en lui. Alors ces mots qu'il te donne, ils descendent en toi et ils te ravinent. Tu aimes sa voix, ses yeux, ses lèvres, son cou, ses cheveux, ses mains, mais jamais il ne te plaît autant que lorsqu'il a ce regard pensif et qu'il fronce les sourcils. Dès que tu le quittes, ta joie tombe, si dure à vivre, si lente à s'écouler chaque heure de chaque jour de la semaine. Et cette angoisse, jusqu'au moment de partir le dimanche, à redouter que le père ne rende impossible ton échappée. Mais tu te prépares à ce mauvais coup et te promets, s'il devait advenir, de trouver le courage de braver le père et de passer outre. Ce que tu vis est trop important pour que tu acceptes de le laisser mettre en péril.
Couleur FM.
Ce ce dimanche-là, quand tu le rejoins, le tonnerre gronde et il règne une lumière de crépuscule. Mais tu aimes cette pénombre qui rend le lieu plus secret, incite à baisser la voix, vous fait désirer être plus intime. Tu as apporté le cahier sur lequel tu transcris de temps à autre ces paroles qui se murmurent en toi. Mais tu ne sais encore si tu oseras le lui montrer. Tu le tiens caché dans un petit sac et tu ne l'en tireras que si l'occasion s'y prête. La peur qu'il se moque de toi relève des fautes d'orthographe, bute sur des phrases mal construites. Il ne te connaît guère et tu voudrais qu'il lise quelques pages, découvre un peu qui tu es. À deux ou trois reprises, tu t'étais enhardi jusqu'à lui poser des questions. Celle-ci l'avait surpris et laissé songeur. Tu désires maintenant qu'il t'aide à être moins tourmenté. Il a lu tant de livres, connaît tant de choses. Il possède forcément les réponses. Le vent se déchaîne, mugit, hurle, des branches craquent et se brisent. Et après un coup de tonnerre plus violent, les nuages crèvent et la pluie tombe avec fracas. Il est anxieux, voudrait rentrer, mais tu le rassures. Il est impossible de trouver un refuge et de toute manière, vous êtes déjà trempés jusqu'aux os. Mieux vaut attendre que l'orage finisse. Soudain, il quitte ses chaussures, ôte sa chemise et, allant et venant sur le chemin, des mèches de cheveux lui barrant le visage, il se met à chanter à tue-tête. Mais bientôt il frissonne, est secoué de tremblement, et tu dois accepter qu'il s'en aille. Avant de disparaître, il se retourne, s'efforce de sourire, et les bras à l'horizontale, il tire-bouchonne sa chemise en faisant mine de l'essorer. Toi debout au milieu du chemin, tu le regardes partir et tu es gêné de ce que ta robe, plaquée sur ta peau par la pluie, moule trop précisément tes formes. Quand tu franchis le petit pont, en arrivant au village, tu jettes ton cahier dans la rivière qui a pris une couleur terreuse. Ce jour-là, tu l'attends en vain jusqu'à la nuit. Toute la semaine, tu es rongé d'inquiétude. Le dimanche suivant, grelottante et désespérée, tu te morfonds sous la pluie et passes ces heures à envisager toutes sortes d'hypothèses. Sans doute tu l'as déçu. Il n'a pas eu le courage de t'avouer qu'il veut rompre. Il n'a pas encore eu le temps d'écrire, mais tu vas bientôt recevoir une lettre. Il l'a envoyée, mais le père l'a interceptée. Sa tante est malade et il la soigne. Ses parents l'ont rappelé et il est parti sur le champ. Il a appris qu'il avait échoué. À cause de cet échec, il traverse une période de cafard et ne veut voir personne. Tu attends. Tu attends. À une ou deux reprises, il avait parlé de la Fresnaye, la maison de sa tante. Tu demandes à l'une des femmes qui travaillent à Hauteville si par hasard elle connaît cette villa. Ta stupeur quand elle répond qu'il ne s'agit pas d'une villa, mais d'un sanatorium. Un jour, tu t'échappes, te rends à Hauteville, et plus morte que vive, tu te présentes au secrétariat de cet établissement. L'infirmière chef te reçoit, mais refuse de te dire quoi que ce soit. Tu expliques, insistes, cites des propos montrant que tu connais bien ce garçon. Émue par ce qu'elle lit sur ton visage, elle consent à t'apprendre que ce jeune homme, effectivement, était l'un de leurs pensionnaires. Oui, il avait une tante et en chaque fin de semaine, il allait passer 2 jours chez elle. Il y a quelque temps, il a fait preuve d'imprudence. Alors qu'un orage menaçait, il est allé se promener en forêt. Il a pris froid et a commis une autre imprudence. Au retour, au lieu de rentrer au sanatorium, il est resté chez sa tante. Une double pneumonie s'est déclarée et sa tante n'a pas réagi assez vite. Il y a 5 jours, la phtisie galopante l'a emporté. Tout le personnel en est encore bouleversé. Tu n'as rien manifesté. Tu as simplement demandé à t'asseoir un instant. Les 10 kilomètres qui séparent Hauteville de ton village, tu les as parcourus en somnambule. Lorsque tu as longé le tronc sur lequel vous restiez des heures épaule contre épaule, de ton bras replié, tu t'es caché le visage, comme pour te protéger d'un feu, d'une menace, pour ne pas voir le gouffre qui allait t'engloutir. Le soir, quand vous vous retrouvez autour de la table pour le repas, ta grande sœur comprend tout. Elle ne sait pas la mort, mais elle comprend que tout est fini. Les interminables pluies d'automne, les nuages accrochés au flanc des montagnes, ou bien ces jours d'épais brouillard et la lumière qui semble à jamais morte. Le froid humide dans les chambres et l'hiver qui approche, la neige à déblayer, les mains crevassées par les engelures, l'ennui des mornes soirées et aucun espoir, aucun espoir. Au cours de la journée, de toute ta volonté tendue, tu te concentres sur ce à quoi s'occupent tes mains, ne penser à rien. Arrêter ce qui sans fin tourne dans la tête, simplement survivre, encore une heure, encore un jour. La nuit, le sommeil se refuse, ce profond silence de la maison, le froid sur ton visage, lèvres scellées, yeux ouverts à attendre que vienne le sommeil. Des heures de calme épouvante. Puis ce dimanche de ciel clair, cette lumière pâle veloutée, et tous ces ocres, ces bruns, ces rouges, ces oranges, ces mauves épandus sur les arbres. Mais la mélancolique beauté de cette campagne ajoute à ta souffrance. Tu te rends là où vous vous retrouviez. Il ne verra pas l'incomparable splendeur de cet automne. Le boulot est là, mais tu es trop loin de celle que tu étais pour jouer à retrouver en lui ton image. Des deux mains, tu agrippes son tronc et te mets à hurler, longuement. Des hurlements sauvages, inhumains, de plus en plus rauques, qui vont s'exténuant, puis s'achèvent sur un râle qui s'étouffe dans ta gorge déchirée. Deux lentes, deux interminables années, une longue suite de jours uniformes où chaque matin tu redoutais la journée qui commençait, où chaque soir tu appréhendais la nuit qui te verrait si souvent les yeux ouverts dans le noir, livré à une souffrance que tu ne parviens toujours pas à surmonter. Toutefois, deux événements heureux ont éclairé pour quelques heures cette grisaille dont tu n'espères plus qu'elle puisse un jour prendre fin. Le mariage de ta sœur aînée et celui d'une jeune fille que toutes quatre considéraient comme une amie. Les deux fois, tu as eu pour cavalier Antoine, un garçon d'un village proche, connu de toute la combe du Val, car il est seul à posséder une moto. En ce dimanche du début de printemps, tu te chauffes au soleil, assise sur une pierre. La neige est en train de fondre et de partout l'eau ruisselle et gargouille. Par un chenot crevé, elle tombe du toit de la grange et répandue dans la cour renvoie une lumière aveuglante. Après cette blancheur qui a régné pendant des mois, tout ce qui se découvre paraît sombre et triste. mais tu offres ton visage à ses premiers rayons, et tu ressens un picotement de joie à te dire que l'hiver s'achève, que le printemps est enfin là. Alors qu'il passait sur sa moto, Antoine t'aperçoit. Un instant plus tard, il te rejoint et propose de te tenir compagnie. Tu as plaisir à le revoir, mais il a du mal à surmonter sa timidité, et c'est à toi d'alimenter la conversation. À 4 ou 5 reprises, ces temps, il est venu à la ferme. Chaque fois, le père l'a fraîchement reçu, mais il ne s'est pas laissé rebuter. Tu n'as plus aucun doute maintenant sur les raisons qui l'ont poussé à te rendre visite. Le soleil se cache et tu veux rentrer. Antoine se renfrogne et tu le sens malheureux de n'avoir pu aborder ce que sans doute il brûlait de te demander. En lui tendant la main, tu cèdes à un mouvement de compassion et toute surprise tu t'entends lui dire « On peut très bien répondre par oui à une question qui n'a pas été posée. » Tu soutiens son regard qui t'interroge. Il hésite, semble ne pas savoir s'il a bien saisi le sens des mots que tu as prononcés. Tes hochements de tête le convainquent qu'il t'a bien comprise. Alors il grimace un sourire et, avant de s'éloigner, te serre le bras de ses mains noires de cambouis. À plusieurs reprises, tu as été sur le point de révéler à Antoine l'épreuve que tu as traversée, mais tu as préféré garder le silence. Tu ne savais trop comment il aurait accueilli cette révélation, et surtout, tu redoutais qu'elle n'installe à jamais une ombre entre vous. Ce secret, tu devais le porter seul, et peut-être serait-il à la longue plus facile de le rendre moins douloureux, de le laisser dormir au profond de la mémoire, ignoré de celui qui aurait pu en concevoir de la jalousie. Tu sais que tu n'éprouveras plus jamais un amour tel que celui que tu as connu, et tu ne pourrais mettre un nom sur le sentiment qui te lie désormais à cet homme devenu ton mari. Mais tu entends être loyal et tu es résolu à te détourner de ce qui a marqué ces trop noires années. Antoine va t'aider à renaître et en retour, tu seras une épouse irréprochable. Certes, tu retomberas parfois dans la souffrance, mais elle n'aura pas le pouvoir de te couper de lui. Lorsqu'elle te dévaste, tu cèdes, t'abandonnes, tu t'effaces et tu n'es jamais capable d'autant d'amour qu'à ces instants-là. Ce que balbutie ta voix intérieure et qui, dans ce profond silence, prend un tel relief et une telle autorité, tu le consignes dans un cahier et ainsi passes-tu des heures à aligner des phrases, réfléchir sur un mot, sonder ces énigmes que sont la vie et la mort. En fin d'après-midi, quand tu as écrit 1 ou 2 pages, tu te sens pacifié, et ce qui initialement te paraissait placé sous le signe du négatif se présente sous un tout autre aspect. Lorsque tu entends les pas d'Antoine dans la grange, tu t'empresses de faire disparaître ton cahier. Il entre et tu le reçois avec gentillesse, mais quelques minutes de transition te sont nécessaires pour quitter ton monde et reprendre pied dans la réalité. À plusieurs reprises, tu as voulu lui faire part de tes pensées, de tes préoccupations. Tu as tenté de l'amener à réfléchir à ces questions auxquelles tu te trouves affronté, mais tu as très vite perçu que rien de tout cela ne rencontrait en lui le moindre écho. Et il était d'autant moins susceptible de s'intéresser à ce que tu lui disais, que lorsqu'il arrive en fin de journée, le désir qu'il a de toi le rend absent, l'empêche parfois d'entendre les mots que tu prononces. Le repas vite avalé, le lit, l'assaut brutal, son allaitement est pour toi un surcroît de solitude. Tu as été heureuse de devenir mère et tes deux premiers enfants, des garçons, t'ont procuré de nombreuses joies. Tu t'es occupée d'eux comme toute mère doit le faire, avec une totale abnégation, sans jamais ménager ta peine, comblée de les voir grandir et se développer. Ils ont apporté une nouvelle dimension à ta vie, et tu penses qu'ils vont t'aider à oublier le passé, t'aider à t'enraciner dans le présent, à créer un foyer où ils pourront s'épanouir.
Color FM 97.1.
3 semaines après la naissance de ton 4e enfant, un garçon, la neige tombe en abondance et l'hiver s'installe qui durera 6 mois. À nouveau le brouillard, le froid, les embarras causés par la neige, la cuisine impossible à chauffer, la glace sur les vitres du matin au soir, le silence, la solitude, et ces 4 enfants qui sont toujours à demander ce que tu ne peux plus donner. Tu sais le besoin qu'ils ont de toi, et tu voudrais te montrer plus attentive, mieux t'occuper d'eux, les cajoler davantage, mais tu n'en as pas la force. Tu te caches pour pleurer. Un combat se livre en toi où agonise le peu d'énergie qu'il te reste. Ta force de vie faiblissante subit les assauts d'une force contraire qui te tire vers le bas, t'invite à tout lâcher, à disparaître. La veille de la Toussaint, alors que ton dernier-né vient d'avoir 1 mois, tu invoques un quelconque prétexte pour demander à ta voisine de garder tes 4 enfants chez elle pendant 1 heure. Tu reviens dans ta cuisine et places des bûches sur celles qui brûlent dans la cheminée. Déterminée à ce que rien ne reste de ce à quoi tu tiens, tu jettes au feu tes cahiers. Puis tu t'assois, et bien calé entre le mur et la table dans un grand calme, tu effectues rapidement ce qui doit être fait. Il s'en est fallu de quelques secondes. Martine a surgi, et alors que tu étais déjà inconsciente, elle a pu arrêter l'hémorragie, puis avec la ceinture de son tablier, te poser un garrot. Après quoi, elle a couru chercher du secours. Par la suite, elle a expliqué qu'elle avait éprouvé un sentiment étrange, senti que tu étais en danger. Elle avait abandonné ce qu'elle était en train de faire et sur le champ s'était précipitée chez toi. Le lendemain de la Toussaint, tu entres à l'hôpital de Bourg, celui où sont admis les déprimés et les malades mentaux du département. Avant que tu ne rencontres un médecin, on te retire ton alliance, tes vêtements, on te tond et on te remet des sabots ainsi qu'une robe de drap brun informe. On te pousse dans une salle sombre et nauséabonde, où vont et viennent 20 de malades. Tu te retournes pour t'enfuir, mais la porte claque. L'horreur, comme jetée au fond d'une fosse. Une fosse où croupissent les crucifiés de l'interminable souffrance. Antoine te rend visite et tu demandes des nouvelles des enfants auxquels tu ne cesses de penser. Différentes familles du village les ont recueillis, mais ils n'y resteront que le temps de trouver où les placer. Sans argent, il ne peut être question toutefois de les faire admettre dans des internats, que surtout, elle ne s'inquiète pas, tout va s'arranger. Autre urgence, il faut qu'il intervienne pour que tu sortes. Chaque jour que tu passes dans cet hôpital ne fait que t'enfoncer davantage. Il doit savoir que tu as toutes tes facultés. Tu étais simplement épuisé, déprimé. Il suffirait que tu te reposes, que tu puisses te ressaisir, et tes forces une fois restaurées, tu pourrais à nouveau reprendre ta place, t'occuper de lui et des enfants. Tu expliques, insistes, il importe qu'il comprenne. Un être équilibré, en pleine santé, s'il devait vivre parmi ces malades, endurer pareilles conditions, il perdrait pied, ne pourrait éviter d'être très vite en perdition. Alors toi qui es momentanément diminué, où trouverais-tu la force de résister, de n'être pas détruite? Si tu ne quittes pas cet hôpital au plus vite, il est à craindre que tu ne puisses jamais remonter la pente et que tu en viennes à perdre la raison. Les surveillantes et surveillants sont des êtres frustes, ignorants, brutaux, qui vous traitent sans ménagement. Lors des repas, pour simplifier le service, il arrive qu'ils mêlent dans votre gamelle, par exemple, de la viande en sauce et de la confiture. De toute manière, la nourriture qui vous est servie est infecte. Tu as d'ailleurs perdu l'appétit et au terme du premier mois, maigri de plusieurs kilos. Tout ce qui touche à la maladie mentale fait peur, et les familles qui connaissent le malheur d'avoir un parent interné cherchent à le faire oublier. Car un malade de ce genre fait tache sur la famille. On étend donc sur lui un voile de silence, et au fil des ans, on en vient à l'oublier. Pour finir, tout se passe comme s'il n'avait jamais existé. Abandonné à son sort, coupé du monde extérieur, il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Et lentement, inéluctablement, il se délabre, sombre, devient ce que, dans le vocabulaire du lieu, on nomme un chronique. Quand il prend connaissance du cahier dans lequel tu as consigné un peu de ta souffrance, le médecin est frappé par la qualité de ce que tu as écrit. Il te fait appeler, vous parler, et il conclut que tu n'as pas ta place dans cet hôpital. Pour que tu sortes, il ne pose qu'une condition. De retour dans ta famille, il ne faut pas que tu connaisses à nouveau la solitude qui a été une des causes de ta dépression. Si donc il reçoit l'assurance qu'une personne te tiendra compagnie, il signera ton bon de sortie. Tu alertes Antoine. Quand il vient te voir, tu le presses de se mettre en quête de quelqu'un qui t'aidera à t'occuper des enfants et t'évitera d'être toujours seul. Mais les semaines passent et Antoine, qui n'est pas des plus dynamiques, n'a toujours pas trouvé la personne qui te permettrait de quitter ce sinistre hôpital. De jour en jour, ton impatience grandit, s'exacerbe, et tu supportes de plus en plus mal l'existence à laquelle tu es assujetti. Quand vas-tu retrouver ta maison, tes enfants, ton chien, et ces chemins sur lesquels tu peux à loisir dialoguer avec toi-même? Tu vis avec cette obsession, tendu vers cet instant où tu seras à nouveau libre. Une guerre éclaire, et la France ne tarde pas à sentir peser sur elle la botte de l'occupant. Très vite, celui-ci met en place la politique qui va viser à éliminer ceux qui, selon lui, appartiennent à une sous-humanité. Dans cet hôpital où tu te trouves, la mortalité augmente. Chaque matin, en ouvrant les portes, les surveillantes ont un mouvement de recul. Les salles sentent le cadavre. Un de ces matins-là, un jour de juillet, tu viens d'avoir 38 ans. On constate ton décès. Tu es morte de faim.
Couleur FM 97.1.
Je n'avais pas 8 ans. Tu es apparu ce jour de juillet où j'ai appris ta mort. Avant ce jour, j'ignorais que tu existais. J'avais une maman qui m'aimait et que j'aimais, et rien ne me laissait soupçonner que j'avais une autre mère. Puis en quelques mots, on m'a appris ton décès. Je crois bien qu'à cet instant, je n'ai rien éprouvé. On ne peut ressentir de la peine en apprenant la mort d'une inconnue. Mais je me souviens de ce qui a suivi. Debout sur le trottoir devant la maison, j'ai une conscience aiguë de ce qui m'entoure. Le vieux cep qui grimpe le long du mur, les feuilles de la treille bleuies par le sulfate, les troncs d'arbres empilés devant le grillage du jardin, la cour, le portail, la porte de l'étable. Le soleil cogne et je reste là, ahuri, hébété, ne sachant trop ce qui m'arrive. Un étau me serre les tempes, la gorge, et je me sens vide. Vide et affreusement là. Le temps s'est arrêté. Rien ne rompt le silence, l'immobilité des choses, la torpeur de l'après-midi. Depuis ce jour, je n'ai jamais aimé le noir de l'été. Ce lointain souvenir, si souvent réapparu, en se rendant à l'école, l'enfant passe devant la haute et large porte en bois, où flambent les vives couleurs des affiches qui le figent sur place, fasciné. Mais un jour, des lambeaux de ces affiches déchirées pourrissent dans l'eau noire d'un trou, creusé dans l'asphalte par l'hiver. Des années plus tard, cette vision s'impose à lui, comme les lambeaux d'une vie jamais vécue, quand vient le hanter le sombre destin de la mère morte. Tu es cette mère que j'ai perdue. Mais comment croire que la mort avait pu t'emporter ? Dressé dans mon regard ou rôdant dans ma tête, tu ne me quittais pas. Pourtant, tu étais l'absente. Une absente si présente que forcément, un jour ou l'autre, tu allais revenir. Alors je t'ai attendu. Tu me parlais à voix basse et le temps ne pesait pas. Je t'ai attendu, mais tu n'as pas paru. Alors je t'ai cherché. Cet inconnu qui marchait devant moi dans la rue, je la suivais, certain qu'elle était toi. Mais c'était chaque fois la déception de découvrir que jamais son visage n'était le tien. Partout je t'ai cherché, dans les bars et les rues, dans les gares et les trains, sur les plages et dans les ports. Partout je t'ai cherché, dans bien des villes et bien des pays. Partout je t'ai cherché. Et je te cherche encore. Tu es cette morte qui n'a cessé d'enténébrer ma vie. Sa tombe effondrée, jamais entretenue, gravée dans la pierre grise, son nom à demi effacé. J'étais seul à entendre sa voix étouffée, suppliante et qui me criait. Délivre-moi, tire-moi hors de cette tombe, donne-moi vivre la vie que je n'ai pas vécue. Souvent je me suis étendu près de toi, non pour m'enfoncer dans la mort, mais pour te donner un peu de mon sang, entendre ta voix, voir briller tes yeux. Je veux déceler tes yeux, tes lèvres, te parler. Prendre ton visage dans mes mains. Je veux que ta voix s'éveille, que tes mots me pénètrent, effacent ta mort, me disent que tu ne m'avais pas quitté. Aide-moi à parler, à marcher, à m'approcher de la vie. Aide-moi à te prolonger. Parle-moi, du fond de ta tombe, parle-moi. Libère-toi de ce qui t'étouffait. Confie-moi ce que tu as toujours tu. Et souffle-moi les mots dont j'ai besoin pour te ressusciter. Penser à toi, à ce que tu as enduré. Consciente, lucide, tu as connu l'horreur, le supplice de vivre jour et nuit parmi les démons. La religieuse parlant de toi à ta sœur, elle est trop intelligente, elle a trop de mémoire. Penser à toi, t'enfonçant, te délabrant. Penser à toi, c'est être happé par l'insupportable. Elle a entaillé son bras et le sang a fui. L'enfant lui aussi a perdu son sang. Ce n'est qu'après avoir longtemps cheminé qu'il a pu panser sa blessure, retrouver la vie. Toi l'inconnu, je ne peux t'éveiller, t'arracher à cette terre qui te tient prisonnière, mais tu demeures en moi. Ta voix silencieuse n'a cessé de se mêler au murmure dont je reçois ce que j'écris. La douce lumière de tes yeux n'a cessé d'aviver la claire lumière qui m'est venue. Ton visage apaisé n'a cessé de m'assister quand je m'aventurais sur la voie. Et ces mots qui te sont à jamais restés dans la gorge, ils ont alimenté la source de ceux que j'ai engrangé pour toi dans mes livres. Souvent la nuit, je te rejoins, passe de précieux moments à tes côtés. J'invente ton visage, ton regard, ta voix, me blottis contre toi. Je pense à ton épuisement, à tes hivers de solitude, aux murs de neige infranchissables. Je pense à ce qui te minait, à ce que tu as enduré, à ta vie tôt interrompue, et une vague de compassion me submerge. Contre toute raison, je continue d'attendre. Je persiste à te demander ce que tu ne peux me donner. Puis tout me revient. La perte, l'effondrement. Tu as disparu dès les premiers jours de mon existence. Mais jamais je n'ai cru que tu m'avais abandonné. J'ai toujours pensé à toi avec tendresse, tout en sachant que tu étais l'absente. Une absente qui imposait fréquemment sa présence, si bien que très souvent tu as été là, participant à tout ce que je vivais. Je te parlais et tu me répondais. Je te disais ma difficulté. Et tu me répondais, mais quand je t'interrogeais, seul répondait le silence. Où étais-tu? Pourquoi étais-tu parti? Pourquoi m'avais-tu laissé? Je voulais retirer de ta vie ce qui t'avait détruite. Je voulais t'arracher à la mort et te voir heureuse. J'inventais l'amour que tu m'aurais donné, cette tendresse que j'appelais et qui aurait cautérisé la blessure. Mais parfois tu t'éloignais, le mirage prenait fin, et je m'effondrais. Tu n'étais plus qu'une présence creuse, un regard clos qui ne savait plus me faire vivre, ce visage qui lentement s'effaçait et se refusait à revenir. Ainsi, au long des longues années, ce fut cette continuelle alternance de rupture et de retrouvailles, de désolation et d'allégresse, d'extrême solitude et de retour à toi, à ta bienfaisante lumière. Jamais je ne me suis lassé d'attendre et toujours ce fol espoir m'a porté. Te voir apparaître, te voir ouvrir les bras, me serrer contre toi. Anne de Boissy. Vous êtes apparue au fond de la Seine, vêtue de bure grise. Le silence s'est établi. Pendant plus d'une heure, vous nous avez tenus en haleine, avec une douleur retenue, puis avec violence, rage, sauvagerie. Vous nous avez fait vivre la solitude, le désespoir de cette femme qui voulait échapper à la médiocrité de son existence, qui voulait coûte que coûte s'élever, mais qui, déception après déception, a fini par sombrer, engloutie par l'indifférence des siens et la folie des hommes. Votre voix, votre regard, votre corps seront désormais ceux de cet inconnu sans visage dont j'ai reçu la vie. Cette vieille dame se souvenait. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis ce jour, mais elle se souvenait. Elle n'était alors qu'une enfant, mais cet instant s'était inscrit dans sa mémoire. L'été de la Saint-Martin épandait sur toute chose sa pâle lumière, et tu étais assise devant la maison face au jardin. Tu donnais le sein à ce bébé qui venait de naître, ton quatrième enfant. Couché dans le creux de tes bras, il tétait le lait de ta mélancolie, un lait noir, amer, corrosif, qui pendant de longues années a déchiré son sang, l'a empêché de vivre, a installé en lui la peur d'être rejeté, abandonné, voué à l'implacable misère d'un esseulement qui ne prendrait jamais fin. Épuisée, toi la mère, tu n'avais plus la force de porter ton poids de souffrance, et très tôt, tu t'es retirée. Longtemps, une voix étouffée, pleine de terre, n'a cessé de le harceler. Comment peux-tu t'accorder le droit de vivre alors que tu as causé la mort de ta mère? Si elle a disparu, toi aussi dois disparaître. Il ne t'a pas connue, mais bien qu'absente, tu étais toujours à ses côtés. Dans la confusion, il a lutté, régurgité le lait noir, s'est construit contre ce qui vous a arraché l'un à l'autre, et au long des lentes années, il s'est confié à la vie, s'est laissé pétrir par ses mains noires et ses mains blanches, a fini par adhérer de tout son être à ce vouloir vivre tenace qui, à son insu, l'a retenu de sombrer.
Vous écoutez Couleur FM.
Jean-Pierre Spilmont, extrait de 10 petites variations pour fréquence modulée. L'autre. À André Chédid. C'est bizarre les rencontres. On ne sait, ne sait rien. On n'attend rien, on ne s'attend à rien. Et puis on se retrouve face à face avec l'autre, ou côte à côte, comme les mots dans un livre. Et ça n'a rien d'évident. Parfois c'est dans une ville que se fait la rencontre. N'importe où dans la ville, un vieux bistrot, par exemple. Lui, il aimait bien les vieux bistrots. Il aimait un peu moins les villes. Il y a une raison à ça. Il y a d'ailleurs des raisons à tout. Et s'il en manque, on s'en fabrique. Celles qu'on se fabrique portent un nom. Ce sont toujours les bonnes raisons. On a donc toujours une bonne raison pour faire ceci ou ne pas faire cela. Aimer ceci et non cela. Il y aurait beaucoup à dire sur les bonnes raisons qui nous poussent à agir ou à ne rien faire. Lui avait de bonnes raisons de ne pas aimer les villes. C'est tout. Pourtant, il aima celle-ci, ce jour-là. C'est ce qui arrive dans certaines rencontres, celles, bien sûr, dont il se souvient. Celle-ci, entre autres, celle-ci, surtout. Ce devait être boulevard Saint-Germain, dans un de ces cafés où les gens aiment se donner rendez-vous. C'était un samedi de juin, un de ces jours qui vous conduisent vers le solstice d'été et où l'on se remplit de lumière, où l'on se nourrit de lumière jusque tard dans la soirée. Ce moment de l'année où la nuit est minuscule, fragile. Ces jours où la vie semble exploser de toutes ses couleurs, comme les femmes au printemps, lorsqu'elles arrachent le vieil hiver de leurs épaules et de leurs branches. Lorsqu'elles gomment le vieil hiver d'un simple sourire de leur corps. C'est vrai qu'il n'aimait guère les villes, mais il pensait que le printemps les rend plus habitables. Ou bien qu'on est soi-même plus habitable au printemps. Qui sait ? Plus habitable à cause de la lumière ? À cause des nuits minuscules, à cause du scintillement particulier des étoiles, à cause des robes claires des femmes. C'était donc un samedi de juin dans un café de Paris, un de ces lieux qui portent un nom un peu magique, parce qu'on en a parlé dans des livres et qu'on se demande s'ils existent vraiment ou s'ils sont une invention. Il était venu là pour s'asseoir un moment, pour regarder le spectacle des choses et des êtres, l'incessant ballet de la vie, comme un bouillonnement. Le flot des passants fait parfois mieux comprendre le mystère de nos vies, tout comme la crue d'un torrent fait parfois mieux comprendre l'eau. On voit l'écume, on assiste à cette fête des milliers de gouttelettes qui jouent dans la lumière. On écoute cette musique particulière du ruissellement sur les pierres et c'est comme l'image de l'eau que l'on aurait perdue et qui nous revient soudain en mémoire. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, il y avait, gravé sur des petites plaques d'émail blanc, à l'entrée de certains immeubles de notre ville, ces mots. Eau courante à tous les étages. Cette idée d'eau bondissante du haut jusqu'en bas d'une maison, comme un saltimbanque de cirque, me semblait extraordinaire. C'était un peu comme un mystère, cette eau courante. Plus tard, bien sûr, j'ai compris que cette fameuse eau courante n'était, somme toute, qu'une eau apprivoisée, assagie. Une eau emprisonnée dans le cuivre ou le plomb des tuyaux. Et les plaques, eau courante à tous les étages, qui finissaient de perdre leur émail sur les façades des immeubles vieillis, me faisaient sourire, comme une chose bizarre, incongrue. C'était vrai que le flot des passants fait parfois mieux comprendre le mystère de nos vies. Lui, il était venu s'asseoir à la terrasse de ce café à cause justement du ballet de la vie, de la danse des corps dans cet après-midi de juin, à cause de la lumière des visages et de celle des regards. Il n'aimait pas beaucoup les villes et pourtant il aimait celle-là, ce jour-là. C'est juste quand il se rappelait un poème qu'elle est arrivée, un poème d'elle justement, un poème qui disait « Par cette naissance qui nous décerne le monde, par cette mort qui l'escamote, par cette vie plus bruissante que tout l'imaginé, toi, qui que tu sois, je te suis plus proche qu'étranger. » Il la reconnut tout de suite. Elle arrivait, toute droite dans sa robe aux couleurs chaudes. Elle arrivait, superbe. Non pas fière, non pas hautaine, mais là, debout. Bien dans la vie, bien dans sa vie. Avec ce léger sourire qui flottait entre lèvres et regard, cette sorte d'humour, cette sorte de complicité avec tout ce qui, autour d'elle, était rire, était vie, était amour simple des êtres et des choses. Elle était telle qu'il l'avait imaginée, un peu plus âgée sans doute que sur la photo qui ornait la quatrième page de couverture de son dernier livre, et cependant plus jeune. C'était une évidence, étonnamment jeune. Il pensa que c'était à cause du regard, de son regard. Il pensa qu'elle garderait toujours, quoi qu'il arrive, cette lumière des yeux. Cette lumière qui réchauffe du premier coup, cette lumière qui tisse le fil, cette lumière qui offre, qui transmet, qui partage. Et il eut soudain cette certitude qu'elle puisait en toute chose, en tout être, ce qu'il possédait de meilleur pour le restituer à travers la peau de sa propre existence, comme une gerbe, comme un bouquet sans cesse renouvelé. Il pensa qu'elle était elle-même gerbe ou bouquet offert et que la vie, touchée par elle, vécue, restituée par elle, devenait cette perpétuelle flambée de tendresse, un feu. Femme flamme d'un brasier de la nuit de Saint-Jean. Femme solstice de l'été. La table près de la sienne était libre. Elle y posa son sac, s'assit et commanda une orangeade. Il ne pouvait plus la quitter des yeux. Il la voyait, il la regardait. Elle, la romancière poète dont il avait lu tous ses livres, aimé tous les poèmes et noté çà et là des phrases, des réflexions, des pensées sur le petit carnet qui ne le quittait guère. Alors, d'un coup, son visage se transforma sous ses yeux. D'un coup, il se modifia, se modela, prenant les traits d'un personnage par elle inventé et qu'il avait croisé lecture après lecture. Ce vieillard, cette mère, cet enfant, ces trois femmes du désert qu'elle avait remises au monde, c'était elle. C'étaient des multiples visages, des multiples enfants nés de ses étreintes avec la terre, avec le monde, avec la vie. Elle était l'autre, simplement. L'être différent et semblable, l'autre semblable qui vient nourrir votre vie, empêcher qu'elle se dessèche au vent trop fort des solitudes. Il se souvenait qu'elle avait écrit, et il savait qu'elle pourrait dire, encore, là, maintenant, à un mètre de lui, assise à la table voisine. Pour gravir, pour aller au-delà, ou simplement pour mieux vivre, qu'y a-t-il de plus entraînant qu'une étoile incrustée dans notre chair, qu'une soif jamais assouvie? Elle était, ils étaient tous une part de cette étoile à naître, à mourir, à renaître dans l'inlassable dialogue des vies venues et à venir. Il a dit tout simplement: j'ai lu vos livres, j'ai... Il aurait voulu expliquer, dire pourquoi il avait aimé Sim, ou Marie, ou Thémis, ou Anastasia, ou Cyr, ou encore Alepha, ou Homosan, ces personnages. Était-ce d'ailleurs seulement ses personnages? Il se souvient encore de ces mots. « L'enfant verra la mer, homme Hassan. Par Dieu, il entrera dans la mer. » Il aurait voulu le lui dire. Mais dire quoi? Expliquer quoi? Elle était Sim, comme elle était Marie, Aléfa et Thémis, Athanasia et homme Hassan, comme elle était Aga et Jeff. Mieux valait dire, là, maintenant, que le ciel était bleu, que juin brillait comme une étoile incrustée dans la chair de la vie. Dire la beauté des hommes et des femmes qui passaient de l'autre côté de la rue, portant à l'intérieur d'eux-mêmes cette part d'humanité qu'elle savait restituer dans chacun de ses livres et dont elle avait recueilli les mots comme autant de salut, de signes, de mains tendues, de sourires. Il venait de comprendre la part d'éternité des mots, la part du cœur aussi, et celle de la mémoire. Et la part des rencontres, ces regards, ce regard dans le flot des passants qui vous fait parfois mieux comprendre le mystère de nos vies. Alors il a eu envie de parler du bleu du ciel, des nuits de juin, de la Saint-Jean qui approchait, de sa quotidienne interrogation de la soif et de l'attente, de ses manques, comme il disait. Mais devant le sourire de l'autre, il s'est soudain rappelé qu'elle avait, dans un de ses livres, placé en épigraphe cette phrase de Boris Vian. « On a toujours quelque chose qui nous manque, alors autant que ce soit quelque chose d'important. » Il s'est dit alors, simplement, que d'une certaine manière, comme l'enfant l'une de ses histoires, il avait vu la mer. Il s'est dit qu'il était entré dans la mer par la simple grâce des mots, par la simple grâce des livres et de leurs multiples visages. Il s'est dit encore qu'on était samedi, le sixième jour de la semaine, et que le sixième jour, peut-être celui de la solitude, mais celui des rencontres aussi, celui de la naissance des rencontres.